Radio Campus Paris présente la séance du dimanche, épisode spécial en partenariat avec la SCAM. Bonjour et bienvenue dans la séance du dimanche. Aujourd'hui, un épisode tout à fait spécial consacré au Festival des étoiles du documentaire de la SCAM. On remercie ainsi chaleureusement la Société civile des auteurs multimédia de nous avoir proposé ce projet. Et tout au long de cette émission, donc notre tout premier hors-série, l'équipe de Vitamine Ciné va vous présenter 8 documentaires que nous avons pu voir en amont du festival. 8 documentaires sur les 30 qui seront proposés du vendredi 6 au dimanche 8 novembre au Forum des Images. Une sélection que nous avons réalisée en essayant de couvrir toutes les catégories des 7 parcours thématiques que vous pouvez suivre lors de ce week-end de projection événement. Il faut juste réserver un pass en ligne ou alors le jour même sur place au Forum des Images pour pouvoir assister à 30 documentaires pendant tout un week-end. Et évidemment, les horaires sont adaptés au couvre-feu. Que vous nous écoutiez avant le festival ou bien après, on vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode hors série. Et je suis entouré de l'équipe de Vitamine Ciné, avec Adeline qui ne peut pas être avec nous et qui sera disponible via des petites pastilles enregistrées. Donc il y a Louis.
Salut à tous.
Et Lucas.
Bonjour.
Ainsi que Victor à la technique. Et on va commencer tout de suite avec le premier documentaire. Donc on va parler de ces 8 documentaires tout au long de l'émission. Et ce premier documentaire va nous être présenté par Adeline à distance.
Salut la team. À cause de ce satané Covid, je ne peux pas être avec vous ce soir, mais je suis avec vous en pensée et un peu en parole, puisque je devais vous parler de 2 documentaires, donc je vais le faire ici, brièvement, dans ce petit enregistrement, rien que pour vous. Alors Falconetti, qui c'est ? Renée Falconetti, c'est une actrice de théâtre et de cinéma dans les années 20 et 30. Elle est principalement connue pour son rôle emblématique de Jeanne d'Arc dans le film de Karl Dreyer en 1929, La Passion de Jeanne d'Arc. En effet, ce film retrace un peu la passion du réalisateur, donc Paul Filippetti, pour cette actrice qu'on ne connaît pas vraiment, dont on ne connaît pas vraiment son histoire, son passé, ses amours, et aussi sa vie privée. Donc il va essayer de savoir en fait comment on a encensé une Jeanne d'Arc et que sans connaître vraiment la Falconetti. Donc en fait, c'est un peu un travail de recherche, un travail de détective à l'aura d'une actrice. Donc c'est un film que je vous encourage à voir et je vous encourage surtout à débattre, les garçons. Donc j'attends avec excitation d'entendre ce que vous en avez pensé.
Eh bien, merci Adeline pour cette petite présentation de Falconetti, de Paul Filippi, et qui est visible pendant le festival samedi à 11h45. Donc les amis, débattons, qu'avez-vous pensé de ce Falconetti ?
Eh bah, c'est un documentaire que j'ai bien aimé pour ma part, un documentaire assez léger sur un thème intéressant. Alors bon, moi je suis fan du film de Dreyer et c'est vrai que de voir la façon dont Falconetti est passé de comédienne parisienne à icône comme ça, icône d'un réalisateur, icône grâce à un film, c'était très intéressant. Et puis sur le travail plus formel, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé. Je trouve qu'il y a une belle narration. Le narrateur, la narratrice du coup s'adresse directement à Falconetti. Il y a une belle écriture du commentaire aussi, j'ai trouvé. Et puis j'ai bien aimé l'esthétique avec ses projections comme ça du film sur des murs, sur différents endroits. Et le travail sur les archives lui-même est très intéressant. Déjà, elles sont laissées en 4 tiers, donc c'est toujours notable et toujours sympa. Et puis elles sont mises à nu, ces archives, elles sont toujours bien présentées, même à la réalisation. En fait, c'est toujours assumé, le travail sur les archives, il est toujours bien décrit, c'est subtil, mais on nous dit toujours comment telle ou telle archive a été trouvée, pensée, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. Et enfin, justement, le fait que les témoignages soient aussi des archives, parce que c'est pas des intervenants, mais pour le documentaire, mais ce sont des gens même qui parlent de Falconetti, qui parlent de son histoire, et on nous dit même je ne sais de votre histoire que ce que les d'autres en ont dit, et les témoignages eux-mêmes sont des archives. J'ai trouvé ça très intéressant.
C'est vrai que c'est une forme intéressante qui tient vraiment de laisser sur le cinéma. Ça me fait penser à Ne croyez surtout pas que je hurle, qui est un autre film que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est sorti l'année dernière et qui n'était fait que d'images d'archives pour raconter quelque chose de très personnel par le réalisateur. Et là, donc oui, c'est quelqu'un qui est le narrateur ou la narratrice, je crois que c'est un narrateur.
Ah, autant pour moi.
Qui s'adresse directement à cette actrice en disant assez, assez justement, je ne connais pas le son de votre voix, car elle n'a fait qu'un film et c'est un film muet, mais pourtant j'aimerais vous connaître, quoi. Et il s'intéresse pas seulement à l'aura de cette actrice qui était donc une grande actrice de théâtre et une actrice dans ce film devenu culte, mais aussi il s'intéresse à la femme qu'il y a derrière. Et il reprend des interviews, des images d'archives d'interviews de sa propre fille, à l'actrice, qui dit donc monstre sacré, il y a sacré, mais il y a aussi monstre. Et cette actrice qui est donc qui a mené une vie assez extraordinaire, finit ruinée, exilée et morte en Argentine, très loin de la France. Et donc c'est très intéressant parce qu'on connaît le film et tout son symbole et toutes les images qui ont été reprises dans d'autres films. Mais on connaît, enfin moi j'ignorais totalement le destin de cette actrice. T'en as pensé quoi toi Lucas?
Bah oui, effectivement, super intéressant. De toute façon, je pense que ça va être le cas pour tous les documentaires qu'on va aborder. Ils sont pas sélectionnés à ce festival pour rien. Je vous rejoins totalement dans l'ensemble. Super commentaire avec une très belle plume, une très belle voix. Et c'est pas si simple un commentaire à faire, mine de rien, pour qu'il soit passionnant sur un sujet comme celui-ci qui, a priori, au premier abord, n'est pas forcément très glamour. Mais là, ça prend vraiment son temps, ça pose la carrière effectivement de cette femme que je ne connaissais pas non plus, malgré le fait que tout cinéphile qui se respecte connaissait cette image tirée du film, donc La Passion de Jeanne d'Arc, où on la voit pleurer en gros plan, mais voilà, on ne sait pas forcément qui c'est. Et quand même une pointe, il y a quand même une pointe aussi d'amertume dans ce documentaire, puisque Falconetti n'a pas forcément eu la carrière qu'elle rêvait d'avoir, elle n'a pas eu la vie qu'elle s'était fantasmée. Mais en tout cas, ouais, très, très, très intime, très intéressant, très prenant.
C'est assez tragique comme destin, en fait, la vie de cette femme. Non, mais c'est un beau documentaire, ouais.
Et donc, on espère que vous irez le voir, surtout que c'est un documentaire qui est assez court, qui dure que 50 minutes.
C'est un 52 minutes, je crois, ouais.
C'est ça, c'est un 52 minutes qui passe plutôt vite, je trouve, et qui a été produit par France 3 Corse, j'ai vu. Ouais. Et donc, c'est vraiment assez ambitieux. Enfin, ambitieux. Ambitieux, mais très accessible. Mm. Et on va passer de suite déjà à un autre documentaire qui n'a rien à voir, qui s'appelle Selfie, de Agostino Ferrante, je pense que je prononce bien son nom, qui sera projeté dimanche, donc 8 novembre à 14h. Et c'est un documentaire, donc cette fois-ci italien, et tout à fait contemporain, et c'est Lucas qui va nous le présenter.
Ouais, tout à fait, Selfie, donc d'Agostino Ferrante, je vais le prononcer comme toi. Donc il est un documentaire au cours duquel on suit les pérégrinations de deux jeunes amis qui s'appellent Alessandro et Pietro dans les rues de Traiano, donc qui est un quartier de Naples contrôlé par la mafia locale et malheureusement connu pour son trafic de drogue. Donc là on pourrait se dire oh mince, encore un documentaire sur cette jeunesse gangrénée par la mafia et par la violence, mais en fait pas du tout. Alors évidemment il y a tout un contexte de violence qu'on peut sentir en toile de fond. D'ailleurs, on apprend que ces deux amis ont perdu un de leurs amis lors d'une fusillade. Mais ces deux amis qu'on suit donc pendant tout le documentaire, en fait, ils vivent certes avec la mafia, c'est-à-dire que la mafia est à leur côté dans leur vie, mais ils ne vivent pas de la mafia. Ils sont pas du tout investis là-dedans. Et c'est ça la force du doc. C'est en fait ces deux jeunes hommes, deux ados très normaux, même si j'aime pas ce terme de normaux, mais voilà, qui ont une vie, qui essayent de mener en tout cas une vie normale. Et puis leur amitié, elle est vraiment sublime, quoi. Elle est faite d'entraide, de compréhension et de petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui en fait trahissent d'un grand respect mutuel et d'un amour certain. Donc c'est ça l'intérêt de ce documentaire dans le fond. Mais il y a aussi évidemment un intérêt du documentaire dans la forme. Parce que pourquoi il s'appelle Selfie documentaire? C'est tout simple, c'est parce que ces deux jeunes amis se filment avec un portable qui est en mode selfie. Donc pendant tout le documentaire. Et là, en fait, le réalisateur Ferrante, il répond à un double problème. Le premier, c'est que, évidemment, se pointer avec une caméra dans ce genre de quartier, ce serait pas forcément bien vu. Et le deuxième problème, c'est un reproche qui est souvent fait à ce genre de documentaire en immersion, où on s'intéresse à l'intimité des gens, c'est que la présence du réalisateur pourrait un peu changer le comportement des sujets qui sont filmés. Donc là, évidemment, il répond très bien à ces deux problèmes de façon très originale. Et il y a autre chose aussi qui devient très drôle et assez touchant, c'est que tout au long du film, on sent que ces deux jeunes prennent vraiment possession de leur propre film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui deviennent les propres réalisateurs du film. On les entend souvent dire, par exemple, ah, pour cette scène-là, faudrait filmer ça comme ça. C'est vraiment touchant de voir à quel point ils prennent possession de ça. Et je crois qu'en fait, il y a là la volonté de montrer autre chose que ce qu'on peut voir dans les reportages ou les documentaires habituels qui font passer toute cette jeunesse italienne de ce genre de quartier pour une jeunesse forcément vouée à vivre dans le sang et dans la mafia. Alors là, c'est vraiment deux amis qui vont boire un café sur la terrasse, qui discutent, qui vont au centre commercial, à la plage, qui vont rendre visite à mamie. En fait, voilà, c'est le récit d'une jeunesse qui raconte un quotidien qu'on raconte beaucoup trop à leur place.
Et c'est vrai que c'est intéressant et ça rejoint un peu la problématique de notre toute dernière émission qui était Filmer la jeunesse. Et là donc c'est un film qui est sous-titré Avoir 16 ans à Naples et qui donc oui filme très bien cette jeunesse parce que cette jeunesse se filme elle-même comme tu le disais. Et moi j'ai juste un petit bémol, même si je le trouve très intéressant le film, c'est que je trouve le procédé du selfie un peu répétitif sur la longueur quoi, sur 1h20, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Il y a quand même des moments où on alterne avec d'autres, je pense aux caméras de surveillance qui sont très bien utilisées, je vais pas dire pourquoi, je laisse au spectateur le plaisir de le découvrir. Il y a aussi quelques petites scènes d'interview dans des halls d'immeubles. C'est quand même, je te comprends, ça peut paraître un peu long, 1h20 que de selfie, mais il y a quand même quelques moments qui sont là pour varier les plaisirs.
Je serais plutôt de l'avis de Nicolas. L'aspect formel justement de filmer au selfie est très intéressant, c'est quelque chose de très novateur, une forme qu'on voit peu ou pas, mais à la longue, d'autant que comme tu l'as dit Lucas, dans le fond c'est une amitié, tout ce qu'il y a de plus banal, et il mène une vie tout ce qu'il y a de plus banal, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, au bout d'1h20 de film, c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Après c'est un documentaire qui mérite d'être vu pour tout l'intérêt qu'il porte sur l'aspect formel, et chacun se fera son idée sur le documentaire et accrochera ou pas à cette forme tout à fait novatrice.
Oui, de toute façon c'est un documentaire qui vaut vraiment le coup d'être vu, qu'on ait des réserves comme deux ou qu'on ait totalement adhéré comme Lucas. Et donc je pense que c'est déjà l'heure de passer au troisième documentaire qui sera Delphine et Carole, et c'est Adeline qui nous le présentera, mais ça sera juste après une toute petite pause musicale.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles.
Et donc on a écouté la chanson India Song qui est tirée d'un film avec Delphine Seyrig qui s'appelle tout simplement India Song par Marguerite Duras, si je me trompe pas.
C'est ça.
Et donc pourquoi cette chanson ? Car Delphine Seyrig est au cœur du documentaire dont on va parler tout de suite et qui va nous être présenté par Adeline. Donc Adeline, que peux-tu nous dire sur le film de Callisto McNulty et Geronimo Roussopoulos, le petit-fils d'une des protagonistes ?
Ce film raconte la collaboration entre sa grand-mère, la vidéaste Carole Roussopoulos, et la comédienne Delphine Seyrig. Entre féminisme et vidéo, ce film raconte tout d'abord l'essor du féminisme dans les années 70 avec le MLF, mais aussi toutes les actions qu'il pouvait y avoir avec la vidéo et ce média comme passerelle pour les femmes dont la parole était souvent blâmée ou effacée à la télévision publique. En effet, le film retrace au travers de témoignages et de vidéos d'archives tout l'espace de cette communication dans les années 70 autour de la vidéo. Il pose aussi la question de la préservation de ces vidéos, qui est quand même finalement une matière que l'on pourrait considérer d'assez friable et que l'on ne peut pas vraiment bien conserver. Donc c'est assez intéressant de numériser toutes ces archives, et je pense que c'était un travail dont vous débattrez très bien les garçons, mais ça faisait un peu penser à un road movie entre deux filles, Thelma et Louise de Ridley Scott.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que c'est vraiment une histoire d'amitié encore qui est au centre du documentaire. Et alors, je sais pas pour vous, Lucas et Louis, mais je trouvais vraiment que c'était un des documentaires les plus intéressants qu'on ait pu voir grâce au Festival des Étoiles du Documentaire, et qui est diffusé donc dimanche à 18h45, et qu'on vous conseille que je vous conseille vivement en tout cas. Car c'est un film qui est donc super intéressant sur le fond. Ça revient vraiment sur tous les mouvements féministes des années 70, donc avec le manifeste des 343, la question de la légalisation ou pas de la prostitution. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant donc, sur ce fond sociétal, donc le féminisme, mais aussi sur le fond de l'histoire du cinéma, parce que c'est Delphine Seyrig qui est au centre de l'attention. C'est une grande actrice qui a une présence qu'on voit dans ses interviews, dans toutes les images d'archives qu'on voit d'elle. Donc sur ce côté histoire du cinéma, sur la carrière de l'actrice, mais aussi, comme le dit très bien Aline, sur la question de la vidéo, de nouveaux moyens techniques qui arrivent dans les années 70 pour s'emparer de sujets du quotidien. Et ça m'a fait penser à un article que j'ai lu récemment, qui était une interview de Garrett Brown, l'inventeur de la Steadicam dans les années 70, donc Steadicam qui permet de faire des mouvements très amples, très souples, et qui expliquait qu'il avait inventé ce procédé pour pouvoir filmer de nouveaux types d'acteurs, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, mais que ces nouveaux acteurs, ces nouveaux corps qui se déplaçaient en mouvement dans les films qui étaient très mobiles, il fallait un nouveau procédé pour les filmer. Et là, pour filmer donc, ces luttes féministes dans les années 70, c'est un peu la même problématique qui est soulevée par Carole Roussopoulos, donc, qui est de s'emparer d'un moyen qui est accessible et pas cher, la vidéo, pour avoir des revendications et pouvoir diffuser en bloc des combats qui ne sont pas ou peu mis en valeur par la société, et notamment par le cinéma, qui est un milieu quand même très très masculin. Et donc toi, Lucas, qu'en as-tu pensé de ce très grand film ?
Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Déjà, vous l'avez déjà dit, je vais pas revenir dessus, mais deux personnages hyper forts, hein, Delphine Seyrig, j'ai été impressionné par sa lucidité et son humilité aussi, surtout. Mais ce qui est vrai, ce qui est la vraie force, c'est que c'est vraiment un documentaire où on voit que le féminisme s'est aussi construit par l'audiovisuel. On a souvent cette image, en tout cas le grand public, je pense, du féminisme qui s'est construit par de grands écrits avec Simone de Beauvoir, ou avec de grands discours avec Simone Veil, mais assez peu finalement par le biais du cinéma ou de la vidéo. C'est aussi la vidéo, Carole Roussopoulos, c'est pas vraiment une cinéaste, c'est plus porté sur la vidéo, quoi. Et je rajouterais aussi qu'au-delà de ça, le film, formellement parlant, n'est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'il allie très bien, par le biais du montage, des sources audiovisuelles très disparates. On a des extraits de films qui répondent à des séquences plateau télé, qui elles-mêmes font écho à des propos tenus face caméra par Carole Roussopoulos. C'est très fluide, ça s'enchaîne super bien, et donc forcément ça sert le propos du film qui est très clair et très juste et nécessaire.
Mais je suis totalement d'accord avec vous, c'est cet aspect-là du film qui m'a le plus intéressé, de savoir comment le combat féministe était mené dans les métiers audiovisuels et par les métiers audiovisuels et du cinéma. Et il y a des épisodes très, très intéressant comme l'occupation de l'église de Saint-Nizier par des prostituées lyonnaises, que Carole Roussopoulos qui va interroger donc ces prostituées dans l'église et retransmettre justement ces petites interviews à l'extérieur de l'église via des écrans, etc., pour que les gens puissent les écouter. Ces petits épisodes comme ça qui sont très très intéressants, donc un beau documentaire, c'est vrai.
Et je me suis d'ailleurs la réflexion pendant la projection, enfin pendant la vision du documentaire, c'est que on fait souvent des jeux lors de nos émissions, et on fait le jeu des réalisateurs. Et si on faisait le jeu des réalisatrices, on serait embêté, parce que on se rend compte que on connaît, après c'est peut-être personnel, mais on connaît assez mal, on connaît beaucoup moins de noms de réalisatrices que de réalisateurs.
Bah, il y en a moins, donc forcément.
Bah oui, et justement, et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est de plus en plus mis en avant. C'est une nouvelle histoire du cinéma à travers ces réalisatrices. Il y a par exemple Ida Lupino qui est mis à l'honneur en ce moment dans les cinémas parisiens. Et je me suis dit, ouais, si on devait faire un questionnaire réalisatrice, on emmènerait pas
d'art. C'est pour ça que je propose jamais d'ailleurs de réalisatrice, parce que ça irait trop vite en fait. C'est vrai qu'on connaît pas assez.
On rappelle que c'est un documentaire qui est projeté donc ce dimanche à 18h45. Et qu'on vous conseille tout à fait, vous aurez pile le temps après de rentrer chez vous. Et on va passer maintenant à encore un sujet qui n'a aucun rapport. C'est ça qui est bien avec les documentaires, c'est qu'on aborde des sujets vraiment très très disparates.
Puis on en a choisi un dans chaque catégorie, donc
oui, ça permet de dresser un très bien préparé par, par nous-mêmes.
C'est un film qui est dans la catégorie temps moderne du festival. Il est réalisé par Aubery Adler, sorti en 2018. Et c'est un film donc qui dresse le tableau de l'élaboration des techniques utilisées par les États-Unis pour torturer sans laisser de traces, donc depuis la guerre froide et jusqu'à la lutte antiterroriste dans les années Bush. Et comme Retour à Kigali, donc c'est un sujet, c'est vrai, assez dur, et une forme là aussi très classique, avec des archives vidéo, mais par définition, il n'y a pas beaucoup d'archives sur un tel sujet, puisque la torture se veut propre, justement, sans laisser vraiment beaucoup de traces, donc peu d'archives. Donc on retrouve un peu d'illustrations, mais surtout beaucoup d'intervenants dans le film, que ce soit des experts ou bien des témoins, donc qu'ils soient bourreaux ou victimes. Et j'avoue que les 30 premières minutes du film m'ont laissé un petit peu de marbre, peut-être à cause de cette forme, justement, encore une fois, très classique. Mais j'ai commencé à y trouver plus d'intérêt quasiment à la moitié du film, quand on commence à parler de Guantanamo, peut-être parce que c'est plus récent, plus actuel, plus proche de nous. Et ensuite, donc, du camp, enfin, de la prison d'Abu Ghraib. Et c'est là que j'ai trouvé une bonne idée de documentaire. C'était de, à ce moment-là, de mettre les photos de certaines scènes de torture d'Abu Ghraib, mais sans plus aucun son. Vraiment, le son s'arrête et ça devient très glaçant. Et là, c'est, je trouve, une bonne idée du documentaire d'avoir laissé ces photos défiler sans son. Voilà, et puis un documentaire qui amène quelques pistes de réflexion, pour certaines survolées, mais toujours intéressantes, notamment de nous faire comprendre que la torture nécessite un cadre institutionnel, et puis une piste de réflexion très intéressante sur l'acceptation morale, donc qui nous raconte qu'à partir du 11 septembre, des barrières éthiques se sont brisées dans la société américaine, et la torture est devenue presque envisagé hein, par la plupart des gens, et qu'au nom de la peur, on est prêt à aller assez loin, même dans une démocratie, et ça m'a fait penser que justement Aubery Adler disait que son idée de faire ce film lui est venue en 2015, après les attentats du Bataclan en France, et qu'elle entendait en fait autour d'elle des discours de vengeance, des gens prêts à justement torturer les terroristes ou ceux qui sont accusés de terrorisme. Et c'est là qu'elle a commencé justement à vouloir interroger la place de la torture en démocratie. Et c'est vrai que sur cette piste de réflexion-là m'a plu, même si encore une fois, je pense qu'elle aurait pu être un peu plus creusée. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ce film.
Je pense comprendre pourquoi la première moitié t'a laissé un peu de marbre, mais j'ai eu ça aussi, c'est parce que ça part un peu dans tous les sens au début. On en vient même à parler de l'expérience de Milgram, bon, qui est très connue, je vais pas revenir dessus. Et en fait, tout ça se regroupe à partir de la moitié du film, dès qu'on commence à parler des États-Unis en Irak et tout ça. Et là, on commence à comprendre où voulait en venir le réalisateur, quoi. Moi, je suis d'accord, j'ai trouvé ça intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et on fait parler quand même une pluralité d'acteurs, parce qu'il y a un historien, qui est très intéressant d'ailleurs, un historien et un sociologue, il y a même une philosophe, ce qui peut paraître assez bizarre sur un sujet sur la torture. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir un éventail assez large sur l'histoire quand même très violente aussi des États-Unis, qui fait, enfin, ça fait un peu office d'une forme d'introspection des États-Unis sur le sujet de la violence, quoi.
Et surtout, les États-Unis, par rapport à la violence, à l'ère de Trump, qui justifie encore plus que les autres la torture, dans certains de ses discours, en tout cas quand il a été élu à l'époque. Et je suis d'accord avec vous, c'est très classique sur la forme. Peut-être c'est des sujets qu'on peut plus ou moins connaître déjà, qu'on a pu voir par exemple en cours. Je sais que l'expérience de Milgram et de Stanford, c'est des sujets qui sont souvent abordés, enfin en tout cas dans mon expérience. Mais oui, comme tu disais, Louis, les dernières pistes donc, sur l'acceptation de la torture par la société. Je trouve que c'est intéressant, que ça pourrait peut-être être développé dans d'autres documentaires, par exemple sur 24 heures chrono, c'est là-dessus que finit le documentaire, et sur comment donc la saison de 24 heures chrono est sortie juste avant le 11 septembre, mais qui explique comment vraiment par la fiction on commence à justifier la torture comme moyen fait par des braves, par des héros pour sauver l'Amérique. Bah, il va devoir se salir les mains un peu souffrir pour les autres, quoi. C'est une vision un peu religieuse même du gars qui va sauver l'Amérique en 24 heures, se salir les mains, mais tout faire pour quand même sauver et torturer à de bonnes causes, comme s'il y avait des bonnes causes pour torturer, alors qu'il montre bien sûr que ça ne sert à rien en plus de torturer. C'est même les d'anciens bourreaux qui l'expliquent.
Juste de façon beaucoup plus pragmatique, il me semble que le documentaire a deux noms, donc Torture Propre, et l'autre c'est Des bourreaux aux mains propres, donc pour ceux qui sont intéressés, voilà.
Et donc c'est un documentaire qui est diffusé dimanche à 11h. Et on va passer tout de suite à Vacanti, un film que je vais vous présenter. Et avant de se lancer dans le débat sur ce documentaire et la présentation, je vous ai préparé un petit quiz sur le motel au cinéma. Donc on a préparé d'autres quiz pour d'autres films. Donc là, vous inquiétez pas, c'est des questions assez générales, un peu loufoques.
C'est très précis comme sujet quand même.
C'est très très précis. Alors tout d'abord, première question, je sais pas si vous avez vu Bagdad Café.
Non.
Qui est un film qui se passe dans un motel. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser de questions sur ce film. Mais je vous demande de quel célèbre auteur Bagdad Café est-il le film préféré ? Donc j'ai quatre propositions. J'ai Michel Houellebecq, qui est aussi acteur à ses heures perdues. J'ai Eiichiro Oda, qui est l'auteur de One Piece. J'ai James Ellroy, qui est l'auteur du Quatuor de Los Angeles. Et enfin, j'ai Hugo Clément, qui est l'auteur notamment célèbre de Comment j'ai arrêté de manger les animaux.
Mais écoute, je dirais James Ellroy, parce que les trois autres me paraissent un peu improbables. Mais...
Et
que
toi, Houellebecq.
J'en ai aucune idée, mais du coup, un peu au hasard, je dirais Eiichiro Oda.
Eh bien, bravo, bravo Louis. Tout à fait le film préféré de Eiichiro Oda, auteur de One Piece.
C'est très étonnant.
C'est très étonnant, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite proposition. Deuxième question sur trois. Là, c'est vraiment très précis, mais c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Quel film de Brian De Palma ne contient pas de référence à la scène de la douche dans Psychose ? Donc Psychose, c'est le film qui se passe dans un motel.
Ah. Mission Impossible 1 ?
Donc, oui, c'est le cas, mais il y avait du coup quatre propositions.
Ah pardon, désolé.
Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de référence dans Mission Impossible 1. Mais du coup, il y a Pulsion, Phantom of the Paradise, Passion ou Body Double.
Si je donne une réponse, c'est complètement au pif, donc je n'en sais rien. Allez, Phantom of the Paradise, mais je pense qu'il y en a.
Et Body Double, du coup, au hasard aussi.
Et non, il y a des scènes, des références à la douche dans ces films. C'était pour montrer que Brian De Palma est vraiment obsédé par Psychose.
Mais
c'était dans Passion.
Qui ne l'est pas.
Qui ne l'est pas, en effet, lui plus que les autres, je pense. Il y a vraiment des scènes, des références dans tous ses films, et même en y repensant dans Scarface, il y a aussi une référence à Psychose, puisqu'il y a une scène dans une baignoire avec une tronçonneuse. Donc c'est vraiment très 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 beau comme réappropriation.
C'est vrai.
Et enfin, on va se rapprocher petit à petit de Vacanti. Question pour voir si vous avez bien suivi pendant le documentaire. Comment s'appelle la ville du documentaire ? Réponse A, New Vegas. Réponse B, Fresno. Réponse C, Clovis, ou réponse D, Easton.
Fresno, je crois.
J'hésite entre la première et la dernière.
Entre New Vegas et Easton, du coup.
Ouais, les deux me parlent. Easton.
Eh bien non, c'était Fresno, comme tu as dit, Lucas, c'est bien, tu as très bien suivi...
Ouais, le bon élève.
Tu as très bien suivi Vacanti. Eh bien, vous avez une réponse bonne chacun. Je suis très fier de vous. Donc, qu'est-ce que c'est Vacanti ? C'est un documentaire qui est diffusé dimanche à 18h15. Donc vous pourrez soit voir lui, soit voir Delphine et Carole. C'est un documentaire de Alexandra Longuet, qui est une réalisatrice belge, et qui a déjà fait dans ses deux documentaires précédents des sujets sur les États-Unis. C'était sur la Louisiane. Là, c'est sur donc un motel qui se... Enfin, deux motels même, pour être exact, qui se situent à Fresno, en Californie, perdu dans le désert californien. C'est donc un documentaire qui se plonge dans un univers un peu hors du temps, un motel, comme souvent dans tous les films documentaires, c'est hors du temps. Et là, c'est vraiment peuplé de personnages tout à fait délaissés par la société. On a donc une mère qui est loin de son fils et qui est droguée, un ancien taulard, un ancien dealer, un gars qui voit un peu des fantômes. Et la particularité du documentaire, en plus de filmer cette Americana, si je peux dire, c'est un documentaire qui formellement... cite Lynch et d'autres photographes ou auteurs américains, avec des plans parfois un peu abstraits, des plans de fumée, des séquences hallucinées sur des autoroutes, etc. Donc c'est vraiment un documentaire d'une heure et quart qui s'axe sur ces portraits de personnages et qui essaie de nous mettre dans cette ambiance un peu bizarre des motels du bord de route des États-Unis. J'ai trouvé ça un sujet intéressant, mais peut-être un peu maladroit parfois. Mais Louis, je sais que tu as bien aimé, je crois.
J'ai bien aimé. C'est sûr. Bah, comme tu l'as dit, c'est des endroits un peu hors du temps comme ça qui sont très très bien représentés dans le film. Et ce que j'ai aimé surtout, moi, c'est la photographie du film. J'ai trouvé qu'il y avait des très très belles images à l'écran. Ça passait vraiment tout à fait bien. C'est vraiment la photo du film, moi, que je retiens surtout. Et sur le fond, ça m'a fait penser, moi, à un film de fiction dont j'ai parlé dans la dernière émission aussi, de Florida Project, sur une jeune mère qui doit élever son fils, pareil, mais dans des conditions très précaires, et qui vit dans un motel et qui doit changer de chambre dans ce motel assez régulièrement, et qui erre un petit peu dans ce huis clos sans pouvoir vraiment en sortir à cause de sa condition. Je le rapproche de ce film, mais j'ai beaucoup aimé, comme je le disais, surtout pour la photographie. Ouais.
C'est vrai, c'est ce genre de film où on est soit hypnotisé, soit on l'est pas. Lucas, est-ce que toi, tu l'as été ?
Non, malheureusement, et je trouve ça très bizarre, parce que c'est vraiment le genre de cinéma que j'aime normalement, c'est-à-dire cinéma très intime, très près des corps, sans aucun commentaire, on se contente de filmer. En plus, des personnes... Enfin, moi, là aussi, ça m'intéresse, parce que c'est l'Amérique des délaissés qu'on filme ici. Mais je sais pas, je saurais pas trop dire pourquoi, j'ai pas été particulièrement emballé. Peut-être qu'il manquait un double sujet, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on se contente uniquement de filmer l'Amérique des délaissés. Après, c'est loin d'être un mauvais documentaire, hein, vraiment très loin. Et effectivement, tu l'as dit, Louis, c'est super beau. Et puis, deux références à David Lynch, ça fait toujours plaisir.
C'est sûr, c'est toujours plaisir. Et surtout, ce qui est bien avec ce genre de documentaire qui n'a pas de protagonisme, mais qui a plusieurs personnes en son centre, c'est qu'on peut plus ou moins accrocher aux uns aux autres. Un de mes petits problèmes que j'ai trouvé au film, c'est que c'est très personnel, mais je m'accrochais pas à la vie de certains ou certaines personnes du film. Mais il y a un personnage qui m'a un peu fasciné, c'est un gars qui met de la musique et qui fabrique des amplis, on sait pas trop où.
Sosie d'Harrison Ford, physiquement.
Sosie un peu chelou d'Harrison Ford, qui voit des fantômes la nuit et qui est totalement perché. Il y a une scène où juste il écoute de la musique. Rien que pour cette scène,
mais il est très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce portrait.
C'est ça. Bah, globalement, on peut être touché quand même par tout le monde. Donc, on vous conseille aussi ce film qui est donc est dimanche à 18h15. Et on va passer encore une fois à un autre genre et même à un autre continent carrément. Et ça va être Louis qui va nous parler d'un autre film, mais juste après une pause musicale.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Alors, pourquoi cette musique ? Eh bien, vous avez entendu Sugar Man de Sixto Rodriguez, qui est tiré d'un documentaire lui aussi, donc j'ai trouvé ça assez intéressant de le mettre ici. Et c'est un documentaire qui est sorti en 2012, qui n'a aucun rapport avec, a priori, le Festival des Étoiles, le documentaire La Scam, mais qui parlait de cet artiste américain qui a été totalement méconnu pendant une grande partie de sa vie, mais dont les musiques ont été découvertes en Afrique du Sud et reprises pour lutter contre l'apartheid, et donc censuré par le gouvernement raciste et ségrégationniste d'Afrique du Sud. Et pourquoi donc cette musique ? Car Louis va nous parler de L'État contre Mandela et les autres, qui est un documentaire donc qui se passe en Afrique du Sud.
C'est ça, et il est dans la catégorie donc résister cette année dans ce festival. C'est un documentaire de Nicolas Champeau et Gilles Porte, donc sorti en 2018, et il raconte le procès entre 1963 et 1964 de Nelson Mandela, on l'a dit, et de ses camarades de l'ANC, donc le Congrès National Africain, opposé à l'apartheid. Ce procès s'appelle le procès de Rivonia, donc du nom de la ville où ils ont été arrêtés. Et ils étaient jugés, entre autres, pour des actes de sabotage contre le gouvernement sud-africain. Mandela et ses complices savaient qu'ils n'échapperaient pas à la peine capitale, à la peine de mort. et ils ont alors profité de leurs interrogatoires à la barre pour faire le procès public de l'apartheid. Alors, ce documentaire, il est fait des archives sonores, des audiences, qui ont été restaurées en France par l'INA, donc petite fierté nationale. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais eu vent de ces archives sonores, de ces audiences du procès de Mandela qui était justement arrivé jusqu'à l'INA pour être restauré. Et je me suis posé une question, je me suis dit si un documentaire doit être fait, parce qu'on pouvait se douter qu'un documentaire serait fait, bah, il serait sans images, puisque ce sont des archives sonores. Donc comment on fait revivre ce procès en fait ? C'est ça la grande question. Et la très bonne idée qu'ont eu donc, les deux réalisateurs de ce documentaire, c'est de faire vivre ce procès grâce à des séquences au dessin d'animation. Donc elles sont faites par le néerlandais Herd van Kylenborg. Donc ce sont des dessins qui sont au service des archives sonores, du dessin en noir et blanc en plus, donc pour illustrer l'apartheid, ça se prête bien. Il y a de belles photos également qui viennent émailler un petit peu le film. Et enfin, des entretiens donc réalisés pour le documentaire. Et ce sont des témoignages du coup de certains ex-accusés qui étaient encore en vie à ce moment-là, mais aussi de certains de leurs avocats et de leurs proches, comme Winnie Mandela, la femme de Mandela. Et ces témoins ont un casque, en fait, ils sont assis sur une chaise, ils ont un casque sur les oreilles, on se demande un petit peu pourquoi. Et en fait, c'est une super bonne idée quand on comprend ensuite le dispositif qui est mis en place et qui en fait les replonge dans le procès. Et les réalisateurs justement récoltent leur réaction aux écoutes, et ça nous mène directement au cœur de la stratégie de défense du camp de Mandela. On se rend compte de toute la bravoure dont ils ont fait preuve, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis enfin, ce qui est très très beau dans ce documentaire, c'est de pouvoir écouter le beau discours de Mandela, en tout cas un extrait, une partie, qui s'appelle le discours de Rivonia, donc d'entendre sa voix, ses mots, ça a quelque chose de très fort, de très puissant. Je sais pas si vous, ça vous a touché, mais moi, beaucoup.
Surtout quand j'ai su qu'après, que c'était un discours de 4 heures, qui a duré 4 heures. Donc effectivement, t'as raison de préciser que c'est qu'un court extrait. Oui. Mais ce court extrait est déjà hyper percutant, quoi. Donc j'imagine pas pendant 4 heures ce que ça devait être. Et voilà, j'imagine que pareil pour toi, Nicolas.
Oui, c'est vrai que tous les personnages, je les trouve touchants. Il y a... c'est tous des papiers et des mamies, parce qu'ils ont maintenant 80 ans. Ils ont été en prison, certains, pendant 25 ans. Ils ont tous le sourire, ils ont tous des histoires un peu rocambolesques, quoi. Il y a ce personnage qui se fait surnommer Pedro, comme c'était en portugais, alors qu'il a les origines du sous-continent indien, apparemment. Et donc lui, il est super attachant. Et c'est vrai que Mandela, du coup, arrive à la fin du documentaire. Vraiment, on n'en parle pas beaucoup avant. Et je trouve intéressant qu'on s'intéresse aux autres aussi. Le titre, c'est L'État contre Nelson Mandela et les autres. Et donc, ces fameux autres, qui sont donc volontairement non cités dans le titre, ils ont une vie tout aussi passionnante, mais ils vouent un grand respect, et on comprend pourquoi, évidemment, à Nelson Mandela. Et c'est vrai que cette fin est vraiment, vraiment très très belle. Et pour revenir oui, sur la forme, tu as dit qu'il y avait des super archives photos, et c'est vrai que les dessins qui mettent en valeur les archives sonores sont aussi très très beaux, c'est de la BD animée. C'est peut-être un peu, je ne l'ai pas vu, je sais que tu as vu toi, Lucas, comme Joseph, qui est sorti...
Ouais, c'est dans l'esprit. Ouais.
Il n'y a pas longtemps dans l'esprit.
Contour assez flou. C'est vraiment pour moi un point positif aussi. J'avais peur, quand j'ai vu qu'il y avait de l'animation, d'avoir affaire à un dessin lisse, un peu stéréotypé, vraiment le truc dont j'ai un peu marre. Là, pas du tout, c'est un dessin très sale, mais magnifique.
Ouais, c'est gras
magnifique
comme
dans
dessin,
la saleté.
C'est très beau.
Et qui s'adapte très bien aux archives sonores, parce que les archives sonores, vu la date, elles sont dégradées, elles sont un peu sales, quoi, mais sales. Vous me comprenez, quoi. Et là, le dessin est aussi, dans cet aspect-là, très dégradé. Et évidemment, ça va de soi, en noir et blanc.
Et puis, les personnages, je pense, moi, au juge, justement, qui est représenté comme une figure monstrueuse et très, très imposante, très oppressive, en fait. Donc, le dessin rend vraiment très, très bien compte du procès.
Et donc, c'est la version de 52 minutes qui est diffusée ce dimanche à 10h. Donc, parfait pour commencer une matinée, je trouve, aux formes des images. Mais j'ai fait mes recherches, car ce titre me disait quelque chose. Et en fait, il y a eu un autre film fait sur le même sujet. Enfin, c'est exactement le même film, mais en version longue, si vous voulez, de 1h50, qui s'appelle Le procès contre Mandela et les autres, et qui est une version cinéma qui dure 1h45, 1h50, et qui est donc le même film, mais en plus long. Donc, je suis très curieux de voir ce que donne ce film que je n'ai pas vu, que vous n'avez pas vu, je pense, non plus.
Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant d'aller le voir.
Et ouais. Je trouve que, justement, le seul petit défaut dans L'État contre Mandela et les autres, c'est que c'est très court, ça se sent qu'il y a des ellipses. On voit, à un moment, on voit des élèves, du coup, de notre époque, quoi, qui regardent les images et tout. Mis à part, est-ce que quelquefois c'est un peu étrange comme
leur apparition. C'est une très bonne idée, c'est un fil qu'il aurait peut-être fallu tirer un peu plus, en effet.
Et donc, on vous conseille tout à fait de le voir, car c'est très pédagogique et très intéressant, mais peut-être encore plus de se pencher sur la version longue, entre guillemets, qui est sortie au cinéma il y a 2 ans. Donc.
Et est-ce que je peux vous proposer un petit jeu à mon tour sur ce documentaire ?
Évidemment.
On va jouer au juste chiffre, si je peux appeler ça comme ça. C'est à celui qui sera le plus près ou qui aura le chiffre exact sur un coup de génie, ça se peut. Donc, première question. Nelson Mandela et ses camarades donc, de l'ANC ont été jugés, on l'a dit, principalement pour des actes de sabotage. Est-ce que vous savez pour combien d'actes de sabotage ils ont été jugés ? Mais dites un ordre de grandeur. 100 pour Lucas.
Alors vu le nombre de grenades et d'engins qui leur sont reprochés et ils sont traités comme des terroristes, je sais pas, je dirais peut-être un chiffre encore plus élevé, on va dire qu'ils sont 10, allez 1000.
1000. Et ben c'est Lucas qui est le plus proche parce qu'ils ont été jugés pour 221 actes de sabotage. Est-ce qui est déjà beaucoup et ce qui témoigne de leur action. Une deuxième petite question, donc on l'a dit là aussi, ce sont les archives sonores des audiences du procès. On l'a dit, c'est un film qui est un peu court, même si tu l'as rappelé, il y a une version plus longue. Est-ce que vous savez combien d'heures de débat ont été collectées et nous ont
ils
été...
Ils le disent à un moment, non de...
ouais. Je crois qu'ils le disent, oui.
Ça doit être aussi quelque chose comme 300 heures peut-être.
Moi je crois que j'ai le chiffre exact qui est 256.
Et c'est tout à fait ça, c'est 256 heures de débat collectés. Donc c'est un travail monstrueux de restauration, de dérochage et de tout ce qui s'ensuit. Et enfin, dernière question. Donc Mandela a été arrêté en 1963, condamné à perpétuité donc à l'issue de ce procès l'année suivante. Mais combien d'années de peine est-ce qu'il aura finalement effectué ?
Alors il me semble qu'il a fait 27 ans de prison.
26.
27 pour lui. Et bah, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il avait été arrêté en 1963, parce qu'il a été donc même en prison pendant son procès, et en effet il a effectué 27 ans de prison, comme l'a dit Lucas, puisqu'il est relâché en 1990, et comme on le sait, élu président de l'Afrique du Sud en 94.
Quel beau parcours.
Le boss.
Et bah, merci beaucoup lui pour ce quiz à la forme assez intéressante et originale. Et on va encore faire un quiz, dis donc, qui est toujours sur le continent africain. Car je vais vous parler de Retour à Kigali, qui est encore sur un sujet qui n'est pas du tout joyeux et très politique. Et donc on va faire un petit quiz avant de parler du film. Tout d'abord, car c'est un film qui est, pour vous expliquer, un film qui parle du génocide qui s'est déroulé au Rwanda en 1994. Il y a eu un film qui est sorti cette année, qui devait sortir avant le confinement et qui est finalement sorti à la fin de l'été, qui s'appelle Petit Pays. Et alors, je vais vous faire 4 propositions pour savoir comment s'appelle l'auteur de Petit Pays,
adapté au cinéma. Ah, t'as pas besoin, moi aussi, j'ai la réponse.
Ah ben voilà, vous êtes très fort.
Gaël Faye.
Évidemment, Gaël Faye. Très, très belle culture, messieurs. Ensuite, question cinéma, cette fois-ci. Lequel de ces acteurs ne joue pas dans Hôtel Rwanda ? Alors, on a proposition 1, Nick Nolte. Proposition 2, Joaquin Phoenix. Proposition 3, Jean Reno. Et proposition 4, James McAvoy.
Putain, attends, mais Jean Reno, il a tellement une carrière improbable que je vais pas le citer. Phoenix, ça m'étonnerait même pas, en fait. C'était qui ta première proposition ?
Nick Nolte.
Allez, va pour Nolte.
Je dirais Jean Reno.
Et non, ils jouent tous dans... les 3 que vous avez cités jouent dans le film. C'est James McAvoy qui ne joue pas dans le film, il joue dans Le Dernier Roi d'Écosse. Non. Et est-ce que vous avez vu Hôtel Rwanda ?
Non, j'ai pas vu, c'est pour ça aussi.
C'est un film qui est un peu trop... Qui est assez touchant, mais qui est vraiment un peu trop hollywoodien et pour un sujet aussi grave, et ça lui a été reproché. Enfin, dans le film Retour à Kigali, il y a Bernard Kouchner, un homme politique très français, et donc je vous pose la question, lequel de ces postes Kouchner n'a pas occupé ? Alors, réponse A, représentant spécial de l'ONU au Kosovo. Réponse B, membre du Conseil constitutionnel. Réponse C, député européen. Ou réponse D, ministre des Affaires étrangères.
Réponse B.
Membre du Conseil constitutionnel, donc ?
Oui.
Et toi, Louis ?
Non, là, j'en ai aucune idée.
Eh ben oui, bravo, Lucas. Tu es fort en politique. Je suis sur la fiche de Jospin pour m'inspirer d'un poste politique. Et donc, on va tout de suite parler de Retour à Kigali, donc que tu n'as pas eu le temps de voir, malheureusement, Louis.
Non, c'est le seul.
Alors, Retour à Kigali, c'est un film de Jean-Christophe Klotz, qui parle donc du génocide au Rwanda et surtout de l'implication plus ou moins lointaine ou plus ou moins proche du gouvernement français dans ce génocide qui a vu la mort de près d'1 million de personnes en seulement 3 mois. Donc Retour à Kigali revient un peu avec des archives, des interviews dans une forme assez travaillée sur la relation entre la France et le Rwanda et pourquoi les Français sont allés au Rwanda au bout de 3 mois de génocide et pourquoi ils ne sont pas intervenus. Ainsi qu'en filigrane, on a aussi d'autres pays tels les États-Unis et une ancienne femme politique des États-Unis qui parle. Et donc le journaliste est présent sur place déjà en 1994, donc avec ce fameux Bernard Kouchner. Tout au long du documentaire, il va montrer, donc Jean-Christophe Klotz, qu'il y a un accord entre la France et le Rwanda qui est maintenir le pouvoir qui est donc détenu par les Hutus face au Front Patriotique Rwandais, je crois que c'est le nom, qui est un mouvement Tutsi. Et donc la France se présente comme un très bon ami du Rwanda et soutient militairement le gouvernement qui va effectuer un génocide. Et la France va fermer les yeux sur ce génocide, puis en fait sauver les bourreaux plus que sauver les victimes, en escortant les bourreaux vers des camps de réfugiés et en ne faisant rien, voire même en leur fournissant des armes. Donc c'est un documentaire très à charge et très important, je trouve, qui contient beaucoup d'interviews actuelles de personnes qui ont participé de près ou de loin à l'opération notamment turquoise, qui a vu des militaires français intervenir au Rwanda. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a plusieurs points de vue qui se confrontent. Donc entre des gens qui ne comprennent pas comment ça a pu se passer. Par exemple, il y a un formateur du GIGN qui était allé former en 93 la garde rapprochée du président rwandais. Il était allé le former avec des techniques françaises, tout ça. Et sur place, il a fini par se rendre compte que c'est les futurs génocidaires qu'il avait formés quelques années avant. Donc c'est quelqu'un qui essaie de comprendre et qui a même, je crois, déposé des plaintes contre l'inaction, voire l'action française. Et de l'autre côté, on a aussi des anciens membres de l'état-major, comme un certain Kenno, qui justifie un peu l'horreur en nuançant les faits ou en montrant que la France n'était pas forcément au courant ou n'a pas forcément tant que ça aidé le gouvernement en place. Et on a aussi des archives qui ont été filmées à l'époque, et des archives vraiment, je trouve, très très émouvantes, comme cette paroisse qui contient beaucoup d'enfants Tutsi. Donc on rappelle que c'est des distinctions ethniques qui ont été mises en place par les colons belges et instrumentalisées, et qui en fait étaient juste des classes sociales avant, si j'ai bien tout compris, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on voit ces enfants qui sont sur le bord de se faire tuer avec des paroissiens qui essaient de les protéger. Et le journaliste qui est là et qui essaie d'avertir des gens et tout, qui n'y arrive pas. Et il y a cette archive très émouvante où on voit le journaliste qui donc nous parle après maintenant, qui a réalisé ce documentaire, qui est blessé, qui est amené dans un hôpital et qui dit « Mais allez sauver ses enfants, on s'en fout de moi, j'ai juste une blessure à la jambe. » Et la plupart de ses enfants vont être enlevés et ne reviendront pas, quoi. Donc voilà, c'est un documentaire vraiment que j'ai trouvé très, très émouvant, assez dur évidemment. Et important, quoi, peut-être pas révolutionnaire sur la forme, mais assez pédagogique et qui revient sur un sujet qui est un peu au cœur, qui a été remis au goût du jour ces dernières années. T'es d'accord avec moi, Lucas ?
Oui, enfin, en tout cas sur le sujet qui est effectivement hyper important, hyper intéressant. Mais après, bon, je t'avoue que moi, c'est vraiment pas le genre de documentaire vers lesquels je me tourne habituellement à cause de la forme, c'est-à-dire énormément d'interviews, de témoignages, avec quelques images d'archives quand même. Donc c'est vraiment très subjectivement que je n'ai pas vraiment accroché, que j'ai même un peu lâché parfois, mais ça n'enlève rien à l'immense travail d'enquête et surtout de recherche, de témoignage, quoi. Ça a dû demander un travail fou, mais bon, voilà.
Oui, c'est peut-être plus un documentaire télé, entre guillemets, sans aucune distinction de valeur, qu'un documentaire cinéma, comme c'était le cas par exemple pour Selfie ou pour le documentaire dont on va parler tout de suite. Et donc voilà, on vous encourage vraiment à le voir. C'est un film qui est diffusé, j'essaie de relire mes notes, qui est diffusé samedi à 15h30, donc toujours en forme des images, et que vous pouvez aller voir, tout à fait, on vous conseille. Enfin, on va passer à un film de Laetitia Canton, diffusé lui vendredi à 14h30 pour tout vous dire, et que Lucas va nous présenter.
Ouais, tout à fait. Alors, il me semble que c'est Laetitia Carton, mais j'ai peut-être...
Oui, non, c'est, okay. T'as raison, c'est Carton. Okay.
Donc, Laetitia Carton, effectivement, donc, Le Grand Bal, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'est un documentaire qui date maintenant de 2-3 ans, donc il a un peu une renommée déjà. Il a même été présenté au Festival de Cannes en 2018, au cours d'une séance spéciale. Donc pour résumer rapidement, c'est un film qui nous invite littéralement à rentrer dans la danse, puisque la réalisatrice a filmé une édition d'un bal qui a lieu tous les étés dans le Massif Central, donc en France. Et pendant plusieurs jours, ben, des gens qui viennent de tout coin de la France et même de l'Europe, ben, ils viennent là pour la journée apprendre auprès de professeurs des danses traditionnelles et le soir venu danser sous un chapiteau pour danser ces danses dont ils ont appris les bases l'après-midi même. Donc ça dure une heure et demie et bah, pendant ces 90 minutes, ça rit, ça danse, ça chante, ça se repose un peu, il y a quelques petits moments de répit, mais vraiment ça foisonne, ça vit énormément. Et moi, je pense que je suis pas le seul, j'ai trouvé le film excellent pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, la réalisatrice Laetitia Carton, elle sait vraiment où se placer, quoi. Et c'est pas simple, parce qu'un bal, t'as beaucoup de monde, et surtout t'as beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et pourtant, elle arrive vraiment à capter de vrais beaux moments dans une foule qui est parfois vraiment assez dense, hein. Y a du monde. Et bah voilà, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un bon cinéaste, ou enfin là en l'occurrence une bonne cinéaste, c'est savoir sentir ce qui se passe autour de soi et saisir les moments clés pour les immortaliser. La deuxième chose, c'est que j'ai vraiment adoré voir des gueules, quoi. Et là, pendant une heure et demie, ouais, ça n'arrête pas. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des moches, il y a des beaux, il y a des hommes moustachus, il y a aussi des femmes moustachues. Je sais pas si vous avez fait attention. Enfin bref, c'est vraiment une occasion de voir des gueules qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, d'entendre des voix et des discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. En ce sens, ça m'a d'ailleurs rappelé un documentaire de Raymond Depardon, évidemment, qui s'appelle Les Habitants, où il fait parler comme ça dans son camping-car des gens qui viennent de toute la France. Sauf que là, évidemment, c'est avec leur corps dans le grand bal que tous ces gens parlent, tous ces gens se mélangent aussi, ils interagissent, et de la plus belle des manières, parce que c'est en dansant sur de la bonne musique, j'ai oublié de le dire aussi, mais c'est vraiment aussi un plaisir pour les oreilles, t'as plein de musique qu'on n'est pas habitué à entendre, et c'est de grosses découvertes. Et enfin, je terminerai par là, et c'est un peu plus personnel, mais ça m'a rappelé un événement historique qui, personnellement, moi, me fascine. C'est l'épidémie de danse qu'il y a eu à Strasbourg en 1518, où, voilà, pendant 6 semaines, t'as des dizaines, puis des centaines de personnes qui se sont mises à danser, malgré elles, sans pouvoir s'arrêter, au risque de leur vie. Hein. On dit qu'il y a eu des morts, même. On n'en est pas trop sûr, mais on sait pas trop pourquoi elles se sont mises à danser pour s'arrêter. Et dans le grand bal, tu ressens aussi un peu cette effervescence, ce truc où tu voilà. Sauf que là, évidemment, ces personnes, elles dansent non pas par la contrainte, mais par la passion, et c'est ce qui rend le film magnifique.
C'est vrai que c'est incroyable parce que c'est à la fin, tu as vraiment envie de les rejoindre, même si on est même sans être danseur, quoi. On a vraiment envie de rentrer en transe avec eux. Je sais pas si tu l'as dit, mais ça dure 8 jours ce festival, quoi. Et donc vraiment, il y a des gens qui dansent à toute heure du jour et de la nuit, qui s'entraînent le matin et dansent, qui le soir vont dans les bals. Et c'est vraiment une micro-société avec, bah, du coup, tous les gens d'une société, quoi. Comme tu as dit, des jeunes, des vieux, tout type de personnes qui dansent entre elles. Il y a aussi des discours sur la relation à l'autre. Par exemple, des hommes plus âgés qui veulent un peu trop danser avec des femmes plus jeunes. Mmh. Ou des jeunes qui disent qu'ils aiment danser plutôt avec des vieux pour mieux apprendre et tout. Et c'est d'autres relations qui se créent entre les gens. Ce sont pas des relations amoureuses, mais vraiment des relations de danse, des moments de communion extrême. Et surtout, oui, comme tu l'as dit, le film avec tant de brio, quoi, c'est ces gens qui dansent sans s'arrêter, tous ensemble, genre ces corps qui bougent en même temps, ces musiques très entraînantes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y a aussi quelques petits moments d'archives,
oui,
qui sont, je trouve, très bien intégrés, où on voit des Bretons qui dansent la tarentelle pendant qu'un prof l'explique. Mmh. Et donc c'est marrant de voir ces gens danser il y a 100 ans, presque déjà rentrés en transe alors qu'ils sont que deux dans la pièce, avec ces grands mouvements de jambes. Je pense que tu as aimé aussi, Louis.
J'ai adoré, et je pense tout comme vous que c'est un excellent documentaire, qui est un excellent travail de la réalisatrice, ça c'est vrai, qui a su parfaitement où se placer et qui nous rend vraiment fascinant tout ce qu'elle filme, de ces gens qui libèrent leur corps. Comme tu l'as dit aussi, Nicolas, ils sont aussi là pour ressentir l'autre, ils le disent, pour être dans un moment de partage. Puis j'ai aimé la forme aussi, documentaire, oui, comme ça, filmé, bah, caméra à la main, avec un commentaire discret, mais bien écrit, toujours pertinent, et des archives, j'ai pas meilleur mot, qui sont deux petites archives de danse qui sont très bien intégrées. Et bah, comme toi, Lucas, j'ai tout de suite pensé à ce fameux épisode de folie qui s'est emparé de Strasbourg. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un livre de Jean Delay sur le sujet aussi qui est bien écrit sur cet épisode. En effet, ça m'a rappelé ça aussi. Ouais.
Je pense que c'était aussi le but de la réalisatrice. Il y avait forcément cette idée derrière.
Et toujours sur la forme, bon, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est pas filmé pareil selon si c'est la journée ou le soir. Genre dans la journée, c'est filmé en format du coup 16:9 habituel, en 78, où on a les différents points de vue des gens qui mangent, qui sont pas forcément bien habillés ou quoi. Et le soir, c'est vraiment des scènes de film, quoi. Filmé donc bien sûr en très beau cinémascope. Au début, il y a un plan séquence sur un gars qui joue de l'accordéon avec une femme qui joue de la flûte, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Je sais plus.
Mais qui vraiment sont eux aussi rentrent en transe pendant que tout le monde rentre en transe autour. Et c'est vraiment des scènes incroyables. Là, par exemple, cette scène d'accordéon m'a fait penser à Holy Motors, qui est un film que tu affectionnes particulièrement, je sais. Mais aussi, donc, les scènes de danse comme ça m'ont évoqué plein de souvenirs cinématographiques, comme La Porte du Paradis de Michael Cimino, où il y a plusieurs scènes de danse dans des grands hangars en bois, de gens qui dansent sans s'arrêter et qui tournent et qui tournent et qui ne s'arrêtent plus. Et donc voilà, c'est quelque chose de vraiment fascinant et enthousiasmant comme film. Et bien donc après ce retour très enthousiaste sur le Grand Bal, on peut peut-être conclure avec un mini-quiz sur les documentaires pour vous préparer à assister à une poignée de documentaires pendant ce week-end. Et avant d'écouter une musique très symbolique dont on vous expliquera la signification. Donc Lucas, tu as quelques questions à nous poser sur le documentaire ?
Comme vous, trois petites questions, mais là on sort un peu du festival pour s'intéresser au genre documentaire plus généralement, qui est un genre qu'on aime beaucoup autour de cette table. Et donc messieurs, je vais vous demander quel documentaire est souvent considéré comme le premier documentaire de l'histoire.
Nanook l'Esquimau.
Et c'est exactement ça, bravo à toi. Nanook l'Esquimau ou Nanook of the North.
De Fleming.
Non, de Robert Flaherty.
Ah, Flaherty.
Donc,
Oh, tu couperas. Oh mon dieu.
Non, on ne coupera pas.
Qui a été donc réalisé en 1922 et qui montre le quotidien d'une famille inuit. Donc la chasse, la pêche et donc la fameuse scène de la construction d'un igloo. Je vais ensuite vous demander, là, j'étais obligé de le caler, à quel peintre Henri-Georges Clouzot consacre-t-il un documentaire en 1956 ?
Picasso.
Picasso.
Ouais, Picasso dans l'excellent Le Mystère Picasso, où là, voilà, quand vous mettez deux génies dans une même pièce, dans un même atelier, vous voyez ce que ça produit, c'est très bon.
Je crois que t'aimes bien Clouzot, non ? J'ai cru comprendre.
Ouais, ça va. Ouais. Non, mais c'est sûrement mon réalisateur préféré, donc effectivement, je me devais de le placer. Et enfin, messieurs, terminons avec un acteur très célèbre. Mais quel est cet acteur qui a annoncé la fin de sa carrière au cours d'un documentaire sorti en 2010 ?
Joaquin Phoenix, évidemment.
C'est Joaquin Phoenix qui, dans I'm Still Here, donc je crois que c'est de Casey Affleck, hein,
oui, c'est ça.
Le frère de Ben. Donc voilà, je crois que c'était en 2008, Joaquin Phoenix avait dit qu'il arrêtait sa carrière d'acteur pour se lancer dans le rap. Et donc il en a fait un faux documentaire qui est quand même sur la forme vraiment couillu, quoi. Mais tout n'est pas parfait, mais regardez-le. Donc ça fait partie du fameux genre du mockumentary, donc qui est un faux documentaire qui en fait est une fiction, mais parfois la frontière est assez floue. Et je vous recommande donc ce documentaire, I'm Still Here.
Et donc on prend une recommandation, est-ce que vous aurez un petit palmarès à nous dire, à nous donner sur vos documentaires préférés vus pendant cette petite session? On n'a pas tout vu, évidemment. On rappelle qu'il y a 30 documentaires qui sont diffusés ce week-end et qu'on en a vu un peu moins d'une dizaine.
Ah oui, c'est qu'un échantillon.
Mais est-ce que quel serait votre top 3, on va dire, même si c'est un peu aléatoire? Je pense qu'on a tous le même top.
Hein. Oui, je pense que vous l'avez ressenti, le Grand Bal, pour moi, est en première position, suivi de Selfie et de Delphine et Carole.
Toi, Louis ?
Eh ben, le même top 1, donc avec le Grand Bal, ouais. Mais pour le reste du podium, moi, ça sera Vacancy en 2.
Ok.
Et en 3, petite hésitation, mais peut-être l'État contre Mandela et les autres.
Ok, ben moi, j'aurais donc évidemment le Grand Bal en premier, car on vous en a dit du bien, et vraiment, allez le voir. Ensuite, Delphine et Carole, dont on vous a aussi dit du bien et qui est très intéressant. Et enfin, je mettrais, je pense, Retour à Kigali pour le côté intéressant et pédagogique. Et donc, eh bien voilà, c'est déjà fini. On a fait un peu plus d'une heure d'émission, je crois. Ça passe vite. On espère que cette émission spéciale vous aura plu. Et on revient très vite pour une émission régulière consacrée à Blade Runner, comme vous le savez peut-être si vous avez écouté notre émission numéro 7. Concernant les étoiles documentaires de la SCAM, On vous rappelle donc que c'est un festival qui est totalement gratuit et qui se tiendra au Fond des Images du 6 au 8 novembre. Et d'ici là, on se quitte donc sur l'ambiance du Grand Bal avec un magnifique cercle circassien. Pour conclure ce podcast, n'hésitez pas à danser et à boire des coups, évidemment.
Quel bon festival!